Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, heureux de vous retrouver, les uns et les autres. Vous ne nous avez pas vus souvent, mais bon, on avait quelques obligations familiales. Et qui nous a, en effet, donné de nous déplacer autour d'Angers, Saumur. Voilà. J'aimerais, si vous voulez bien partager avec moi, nous allons ouvrir une première page dans le livre du prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe. Le chapitre 66, à partir du verset 9. Alors, nous allons ouvrir cette page et j'aimerais faire un exposé à partir de cette première pensée qui va nous conduire dans le détail et bien de ce que l'on peut appeler... l'homme dans le plan de salut. Et nous allons voir que il y a de la suite dans les pensées de Dieu. C'est un texte que nous allons partager. Le sujet est inédit, je tiens à vous le dire. Nous le connaissons parfaitement bien, mais nous ne sommes pas conscients de la réalité spirituelle de cette dimension dans laquelle nous allons nous introduire. Alors, Ésaïe 66, je rappelle, verset 8, et c'est Dieu qui parle par le prophète. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alors, j'ai intitulé notre message ce matin tout simplement « Un homme est né ». Rien à voir avec Noël et la naissance virginale de Jésus, hein. Noël, on en a parlé il y a un mois. Bon, maintenant, c'est autre chose. Et ça nous concerne tous les uns et les autres. Et j'aimerais justement exposer ce matin le génie créateur lorsqu'il est l'initiateur du salut des hommes. Donc, un plan de salut. Et nous allons faire un peu d'anthropologie. Alors, c'est... l'étude sur l'homme, l'anthropologie. Hein. Alors, il y a une anthropologie naturelle, et puis il y a une anthropologie biblique également. C'est celle-là qui nous intéresse. Et je voudrais simplement rappeler quelques détails que nous savons. C'est que l'homme est un être tripartite. C'est une trinité, si vous voulez, comme son créateur. Hein. Mais on n'est pas Dieu. C'est bien ça, la différence. Hein. Le corps, l'âme et l'esprit. D'accord ? Vous allez voir, c'est très simple. Mais on va découvrir des choses assez étonnantes. La notion physique qui nous fait que nous avons une identité, nous avons une reconnaissance de chacun. On ne se ressemble pas les uns et les autres, n'est-ce pas, hein ? Et pourtant, nous formons un tout, une famille. Donc, la reconnaissance physique, on sait ce que c'est. Il y a une reconnaissance morale, c'est-à-dire notre personnalité, on en reparlera tout à l'heure. Et il y a une reconnaissance pour nous maintenant, spirituelle. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc trois dimensions tripartites, ou la triunité si vous voulez. Mais nous avons une destination. Alors je ne veux pas parler de la plus sombre et la plus négative, vous allez la deviner, mais il y a une destination qui est celle de la terre, qui est tout simplement une destination de provisoire, passagère. D'ailleurs, la Bible dit, hein, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et on a du mal à décoller, hein, devant certaines réalités de fin de vie. Parce qu'il faut partir. Il faut passer. Finalement, il y a cette dimension, la terre, il faut la quitter. Et on s'y est installé. Ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a une dimension qui est celle du ciel. Je vous dis, je vous parle de la plus positive, hein, et de l'unique positive. Donc, qui est une destination d'éternité, qui est une destination de permanence éternelle. Et ça, c'est quand même important. Et c'est pour ça que je reprends, qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais rien vu de semblable? Moi qui fais naître. Et Dieu le dit d'une manière tout à fait particulière. Donc ça, c'est notre première entrevue. Et puis, nous allons maintenant rentrer dans l'explication de tout cela. Je vous ai dit tout à l'heure, un homme est né, et Dieu est le Dieu de la vie, pas de la mort. On sait qui est le prince de la mort, d'accord? Mais on connaît le prince de la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a créé la vie de l'homme, de l'humanité, c'est Dieu, avec, dans sa bienveillance, dans son amour, et dans le meilleur idéal qui soit. Le jardin d'Éden, c'est ça. Ah oui, mais il y a eu un problème là. Un problème qui nous poursuit encore aujourd'hui. Alors, quand je dis que Dieu est le Dieu de la vie, qu'il n'empêche pas de naître, retenez bien le verbe « naître ». C'est important parce qu'il va suivre tout notre parcours ce matin. Je vais peut-être vous étonner, mais naître trois fois. En fonction, finalement, eh bien, de ces paramètres que je vous ai donnés, le corps, l'âme et l'esprit. Naître trois fois. La destination, je la rappelle, pour qu'elle soit bien devant nous, comme véritablement le bout de ce chemin de notre vie temporelle sur cette terre. Et vous connaissez tous l'histoire de la chenille et du papillon. Je la rappelle. Alors, vous l'avez souvent entendu dire par les prédicateurs. Il y a quelque chose de merveilleux. La chenille, dans sa situation primaire, elle vit dans la terre, sous la terre. C'est une larve. C'est quelque chose qui n'est pas beau. C'est quelque chose qui, finalement, est assez répugnant. Puis, à un moment donné, il va y avoir comme une transformation, comme une métamorphose. Et petit à petit, cette chenille va sortir de la terre. Elle va quitter son lieu où elle a été, eh bien là, en effet renfermée, je ne sais pas combien de temps, mais peu importe, ça ne nous intéresse pas plus. Et puis elle va devenir à un moment donné, au contact de la lumière, au contact de l'air, elle va devenir un splendide papillon. Une, être enfermée dans la terre, mais il y a un processus de vie. Et l'autre va aller vers le ciel. C'est magnifique, hein? Alors que ce soit les papillons, que ce soit les libellules, que ce soit les insectes en général, que ce soit dans l'eau ou que ce soit dans notre milieu, nous terrestres, peu importe. Et nous voyons qu'il y a là une métamorphose extraordinaire. Alors moi, je prends un grand plaisir, puisque j'ai le temps maintenant, à regarder tous ces beaux documentaires. Ah ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Parce qu'on voit des choses, il y a les techniques aujourd'hui de photographie qui nous montrent en accéléré eh bien, tout le processus qu'il peut y avoir de la terre au ciel, de la chenille au papillon. Je vous ai dit il y a un instant qu'il y avait trois naissances, naître trois fois. La première fois, c'est l'embryon dans le ventre de la maman. Eh oui, c'est un miracle, hein? Parce que Dieu a fait le processus de multiplication et de développement de la vie à travers, eh bien là, cette façon, oui, l'embryon, qui est au départ imperceptible, Et puis au fil des semaines, au fil des mois, il va y avoir, eh bien, un petit être qui est là. Et ce petit être qui est là, il n'a qu'une relation qu'avec sa maman. Oui, il ne connaît pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il deviendra. Et on entoure naturellement de soins la future maman pour qu'elle puisse prodiguer à son enfant, eh bien, tout ce qui lui est nécessaire, l'équipement nécessaire pour qu'il rentre dans une autre vie. La maman sait, mais l'enfant ne sait pas. Est-ce que vous vous souvenez du jour de votre naissance ? Dur, dur, hein ? Moi, un jour, il y avait un chrétien que j'aimais beaucoup, c'était un frère ancien, qui me tenait mordicus en disant « Je me souviens du jour de ma naissance. » Oh, mais c'était un spécialiste. Un homme que j'aimais beaucoup. Il est parti, maintenant il est dans le Seigneur. Lui, il a, voilà, il est papillon. Hein. Voilà. Donc l'embryon, c'est miraculeux ça. Hein. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Hein. Ouais. Et dans le monde des animaux, c'est la même chose. Hein, pour les mammifères. Les vivipares. Et non pas les ovipares. Mais c'est pareil, c'est toujours le même principe. Hein. L'œuf ou l'ovule, c'est la même chose. Enfin, à mon jugement. Et nous voyons que c'est souvent une gestation difficile. Ah oui, ce petit être qui est en train de se développer et qui est finalement, eh bien là, qui vit. Il vit déjà. Il a une vie à lui. Et nous voyons que la maman, eh bien, ressent toutes sortes de choses. Moi, je ne peux pas vous en parler en connaissance de cause. Et ça ne m'arrivera jamais. Hein. Si le jour ça m'arrive, alors là, vous pourrez peut-être dire que on n'a plus les pieds sur terre. Mais toujours est-il que quelquefois, eh bien, pour le papa qui accompagne, et c'est vrai, c'est merveilleux, hein, la maman dit, mais moi j'ai envie de manger ça, j'ai une faim terrible. Beaucoup de choses me souviennent, nous on a eu 3 enfants, Myriam n'a jamais autant mangé, voilà. Ça m'a coûté cher quand même. Enfin, bon, c'est un petit sourire au passage. Et c'est souvent, quelquefois, ça se passe bien, mais quelquefois, c'est souvent une gestation difficile. Et c'est une gestation d'espoir. Je tiens à le dire, je marque. Gestation d'espoir. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'heureux. Plus la période d'accouchement se rapproche, plus il y a une angoisse. Comment ça va se passer ? Et c'est tout un suivi, naturellement. Hein. On a de la chance de vivre dans un pays où on a vraiment un bon accompagnement. C'est peut-être un petit peu plus flottant en ce moment, mais bon, peu importe. D'espoir, parce que la maman veut donner le maximum, eh bien, à son enfant qui va apparaître. Et vous connaissez l'histoire d'Anne. Ah ouais, 1 Samuel, chapitre 1er, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 1er. Ça, c'est quelque chose. Et il y a naturellement, eh bien, une espérance, mais une espérance qui fait mal, qui est douloureuse, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et ça, c'est un des textes les plus beaux, me semble-t-il, dans la Bible. Alors, il y a naturellement le moment venu, et il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a une angoisse. Mais quand le bébé est là, c'est formidable, hein. Oui, tout le monde est heureux. Un homme est né. Ou il va naître. Donc il y a l'avant-vie. Comprenez ? L'avant-vie dans le sein maternel. Première fois, l'embryon. Il y a un second exemple, et là nous allons penser à une autre dimension. Un jour, Jésus rencontre, ou plutôt un homme vient à la rencontre de Jésus, il s'appelle Nicodème. Eh oui ! Et il va y avoir une explication entre Jésus, qui dira « Je suis venu du ciel ». Il descend vers la terre pour préparer un monde pour aller au ciel. Nicodème, c'est un théologien, un docteur de la loi, qui a une place éminente, on pourrait dire même dans le gouvernement d'Israël. Il est un homme que l'on consulte dans les instances politiques, mais c'est un homme religieux, mais un homme sincère. Et il va venir vers Jésus en disant, mais Je sais que tu es un docteur venu, il parle à Jésus, que tu es un docteur venu de Dieu, parce que tu fais des miracles, tu fais des choses extraterrestres. Et là, Jésus ne va pas répondre à sa question. Il va lui dire, si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il lui montre là le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il l'indique. Alors, le pauvre Nicodème est complètement déconfié parce qu'il a toujours vu que la chose naturelle. La maman qui donne naissance à un enfant qui va devenir un homme. Et il va se mélanger, le pauvre Nicodème. Il va complètement là être désorienté. Jésus lui dit, mais tu sais le vent, il souffle où il veut. Eh bien, l'esprit, c'est la même chose. Il souffle où il veut. Mais comment cela peut-il se faire qu'un homme, lorsqu'il est vieux, rentre dans le ventre de sa mère? Imaginez-vous quand vous avez eu 10 enfants. Vous, les mamans. C'est un peu scabreux comme histoire. Mais ça se comprend sur un autre plan, bien sûr. Nicodème ou la nouvelle naissance. Eh oui, il va lui tenir ce propos. Si un homme naît d'eau et d'esprit, ah, d'esprit. Et puis il y a une troisième proposition, c'est laquelle, sur laquelle vous pouvez déjà ouvrir la page, je ne vais pas la lire tout de suite. Hein. Mais 1 Corinthiens 15, 42, vous pouvez toujours l'ouvrir, comme ça sera prêt pour tout à l'heure. Donc, troisième proposition que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Et là, je vais donner un petit peu l'indication de la route, avec quelques panneaux indicateurs, si vous voulez, on peut le dire comme ça, de la chair à la terre et de la terre au ciel. On chante un cantique hein, qui prend cette idée, finalement. De la chair à la terre et de la terre au ciel. Trois étapes pour l'humanité. Il n'y a pas d'exception. Hein. Depuis que le monde est monde, depuis que les hommes sont sur la terre, depuis que les hommes naissent et meurent, c'est la même chose. Nous allons examiner, si vous le voulez bien, l'homme dans sa composition créationnelle, c'est-à-dire la créature. L'homme est une créature de Dieu. Je dis bien, créature de Dieu. Et il est dans une composition particulière. D'abord, il y a la dimension, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, et c'est simplement pour bien fixer les choses. Il y a d'abord une création matérielle, la chair. Elle est, finalement, il y a des capteurs, les sens, 5 sens. Voilà, vous les connaissez. C'est ce qui nous permet d'avoir le contact avec tout notre environnement. Hein? Et on l'appelle soma, somatique, soma. C'est le corps. Et c'est le domaine, c'est véritablement la dimension de notre existence sur Terre. Et ça représente la conscience de la nature charnelle. Quand on se coince un doigt dans la porte, on sait très bien ce que ça veut dire. On a mal. C'est le corps qui réagit. Hein, je prends cet exemple, il est puéril, mais bon. Donc, c'est la conscience de sa nature, de son environnement physique et visible. C'est notre temporalité maintenant. C'est ce que nous sommes. Alors, on se bat bec et ongles pour défendre, finalement, cette vie-là. La chair, à travers, eh bien, sa soma, parce que finalement, eh bien, nous avons le fonctionnement des sens. Il y a la dimension immatérielle, je vous ai dit matérielle, parce que bon, voilà, hein, on sait ce que l'on est. La dimension immatérielle, c'est l'âme, la psyché, en grec. C'est la conscience de l'homme de sa nature intérieure. C'est plus l'extérieur, que je vois, que je ressens, etc. Mais c'est une dimension intérieure. Elle est invisible. Parce que c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose que je ne vois pas. Mais par contre, que nous rentrons en contact par cela. Autrement, le corps, s'il n'y a pas cette dimension de l'âme, c'est un corps qui est mort. C'est un cadavre, si vous voulez. Alors, il y a la première, physique. Il y a la seconde immatérielle qui est l'âme, la psyché, et elle nous donne la conscience de sa nature, donc de ce type-là. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Pierre ou Jean, eh bien, je le reconnais par son aspect physique, mais je le connais encore davantage parce qu'il est à l'intérieur. C'est un bon garçon. Oui, il est toujours prêt à faire du bien. Et puis j'en connais un autre, ses pensées sont noires, elles sont négatives. C'est comme si c'est son ego. C'est toujours lui le premier. Et puis avec tout ce qu'il peut véhiculer. Alors ça, je le connais tant d'une manière, tant d'une autre, enfin en fonction. On n'est jamais tout blanc, tout noir, hein, de toute façon. Parce que l'homme est pécheur, hein, de toute façon. Donc la personnalité de la conscience de soi. Je sais ce que je suis, mais je sais ce que je suis avec des limites, parce que quelquefois, c'est les autres qui me disent ce que je suis, et je ne veux pas l'entendre, parce que ça me dérange. Voilà. Quand ce sont des louanges, ça me fait plaisir, mais quand c'est le contraire, et que c'est la vérité, c'est la conscience, finalement, de soi-même. Et puis, il y a également une autre dimension, c'est la dimension spirituelle. Alors, on sait ce que c'est. Nous, les chrétiens, qui sommes nés de nouveau. Alors, peut-être ceux qui sont en dehors de ces dimensions parleront de dimensions religieuses. Ils parleront de dimensions philosophiques. Ils parleront avec des termes que nous comprenons naturellement. Donc, spirituel. Et spirituel, c'est ni le corps, c'est pas l'âme, c'est l'esprit. Dieu nous a créés avec un esprit, avec un petit « e ». Et en grec, c'est pneuma. Pneuma, souffle, vent, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pneumologie. Non. Pneumatologie. Attention, hein, parce que l'autre, c'est un terme médical. Hein. Voilà. De désignation. C'est la conscience, cette troisième dimension, c'est la conscience qu'a l'homme de la dimension de son environnement. Mais pas cet environnement terrestre. Mais de cet environnement invisible lui aussi, mais au-delà de nous-mêmes, c'est le monde que nous pourrions dire, c'est le monde des réalités invisibles, c'est-à-dire malin ou divin, humain, la personnalité, deuxième point, l'homme intérieur, et puis la troisième dimension, c'est finalement eh bien, ce qui est malin, ou ce qui est divin. Et ça, c'est la dimension éternelle. Dimension de l'éternité. J'aimerais faire une remarque sur la théorie de l'évolution. Ça va, c'est pas trop compliqué ? Je m'appelle pas Darwin. Hein. La remarque est la suivante. L'humanité est une création de Dieu et non une évolution à forme sous-humaine, non-humaine ou pré-humaine. On peut la définir, je vais vite, hein, je passe assez rapidement, mais on peut le dire ça. C'est pas finalement, eh bien, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de relation entre ce que Dieu a créé et puis ces théories de l'évolution. L'évolution tend à faire croire, je dis bien à faire croire, parce que c'est toujours un problème de foi, hein. C'est toujours un problème de conscience. Qui parle ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est l'homme ? Ou est-ce que c'est lui qui est apparu au chapitre 3 du jardin d'Éden ? Vous serez comme des dieux. Mais non, on n'est pas dieux. Et nous voyons que ça induit en erreur l'esprit de l'homme qui va avoir des conséquences sur sa vie, sa personnalité, en fonction de ce qu'il croit ou de ce qu'il ne croit pas, s'il croit ou il est incrédule, et ça va avoir aussi certainement des conséquences sur notre vie physique, d'une manière ou d'une autre, qui va naturellement impacter notre comportement. Donc, l'évolution tend à nous faire croire à une forme, comment dire, à une forme animale. Alors, dans la création, il y a eu le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et l'humanité. 4. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est que l'homme est une création très spéciale à partir d'éléments matériels, non organiques, matériels, la poussière. Si c'était organique, il serait descendu d'un animal. Dieu aurait pris un animal et il en aurait fait ce que vous voulez. Ça fait partie d'une des tendances des voies de l'évolution. Voilà. Hein. Vous avez bien compris. Ça, c'est clair. Hein. C'est à partir d'éléments matériels, donc la poussière, et il y a un terme pour désigner que Dieu l'a fait de rien. Nous sommes, nous, une créature qui est sortie de la poussière et on appelle ça tout simplement ex nihilo. Alors c'est compliqué, mais c'est pour montrer que c'est Dieu qui est créateur. Il est créateur de tout. Alors il est créateur de tout, sauf qu'il ne s'est pas créé lui-même. Il est de toujours, il est de toute éternité, et Dieu sera de toute éternité. Il est Dieu. Alors comment vous expliquez ça? En théologie, c'est pas de la facilité. Mais néanmoins, ça s'explique. Ça s'explique. Et il y a une distinction à faire dans le monde animal humain. Alors c'est vrai que nous pouvons aimer les animaux. On voit qu'il y a un courant, là, depuis des dizaines d'années, je ne juge personne, où il y a une affection peut-être beaucoup plus prononcée pour les animaux que pour les hommes. C'est peut-être plus facile à vivre avec les bêtes que de vivre avec les hommes. Oula. Ça, c'est terrible. Alors, ça dépend quel animal, parce que si je dois vivre avec un serpent venimeux, aïe. Moi, je le coupe en morceaux, j'en fais une anguille pour le mettre dans la poêle, hein. Mais bon, il y a des animaux qui sont très aimables. Vivre avec un âne. Oh, c'est pas mal. Mais vivre avec un animal sauvage, un félin, c'est autre chose. Alors donc, distinction à faire, parce qu'on n'est pas de la même famille. Et c'est ça justement l'ambiguïté. Hein. Et c'est pas la même création. Et nous voyons que l'homme a quelque chose de particulier, c'est sa singularité, singulier. Il est unique, l'homme. Voilà, il est unique. Il est l'exception dans la création de Dieu. Un être supérieur dont Dieu a jugé que ce qu'il avait créé était bon et même très bon. D'accord ? Et qu'il était aussi la noblesse, finalement, du génie créateur de celui qui l'a mis, finalement, lui a donné la vie. Alors, ça, c'est l'homme. Cette dérive de l'évolution laisse à penser que Dieu se serait servi de la... Écoutez bien. Se serait servi de la créature inférieure, les bêtes et les animaux, pour créer l'homme. Moi, j'ai beau regarder un singe, même si je ne suis pas beau, je me dis qu'il est encore plus laid que moi. Dieu se serait servi, prétendument se serait servi de la création inférieure, animaux, on prend l'exemple du singe ou du poisson que nous descendrions, pour créer un être supérieur, c'est-à-dire qu'il se servirait du bas pour créer quelqu'un de haut. Ça va ? Il aurait rebondi Dieu dans sa création géniale à partir d'un animal organique, c'est-à-dire vivant, organique, pour véritablement faire quelque chose de plus haut. Vous savez, ça laisse beaucoup de questions, tout ça. Hein. Ah ouais. Ça laisse beaucoup de questions. On pourrait évoluer même sur certaines pratiques humaines et religieuses. Moi, je pense, par exemple, à la crémation et l'inhumation. Je ne veux pas vous en parler ce matin. Mais quand on y réfléchit bien, on est poussière. Que de la poussière. Alors, quel que soit le moyen pour... voilà. Hein? Bon, mais moi, je ne veux pas vous choquer. Mais il faut peut-être quelquefois réfléchir que Dieu ne va pas chercher en dessous, mais il va toujours chercher à partir de quelque chose d'unique, ex nihilo, tout simplement. Alors, c'est une dérive. C'est-à-dire, l'inférieur a été choisi par Dieu pour créer le supérieur... avec des prérogatives inconnues chez les bêtes. Eh oui. Et ça, c'est une aberration. Oui, une aberration. Parce que Dieu est Dieu. Les animaux, nos bêtes, mis à part les perroquets, ils savent pas parler. Ils ne peuvent pas écrire. Ils réfléchissent avec un instinct inné. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ils ne savent pas calculer. Mettez un animal, un chien ou je ne sais pas ce que vous voudrez, mais au volant d'une voiture, S'il a son permis de conduire, c'est un miracle. Et puis, je ne vais pas multiplier parce que ça prête à sourire tout ça. Mais c'est grave que le monde se soit enfourné, se soit fourvoyé dans une direction au lieu de regarder ce que nous dit la terre. Moi, je crois que tu es créateur et que je suis une créature de Dieu. Même si dans l'homme, il y a le côté animal. Eh oui, dans les deux sens d'ailleurs. Parce que les animaux ont une âme. Ils ont un corps, ça c'est sûr. Mais ils ont une âme primaire, mais il y a l'absence de l'esprit, l'absence de la dimension, l'esprit avec un grand E, naturellement, qui ouvre aux réalités présentes et éternelles. Parce que l'animal n'a pas d'espérance du ciel. Il n'a pas d'espérance de l'au-delà. Tout simplement. À ce titre, nous allons revenir maintenant sur 1 Corinthiens, chapitre 15, qui expose, et ça va être le corps même de notre réflexion, qui expose sur 8 certitudes qui est offerte à notre foi, toujours la foi, naturellement. Alors on va lire. Moi, c'est un texte que je prends souvent le jour des sépultures au cimetière. Eh oui, parce que le monde courant, le monde religieux, a souvent l'habitude de dire « adieu, bye bye ». Non, c'est pas comme ça, c'est un peu trivial, hein. Mais « adieu ». Mais pour nous, les chrétiens, ça ne ressemble à pas du tout cette chose. Et il nous est donné dans 1 Corinthiens, chapitre 15, eh bien toute la structure de l'espérance qui est la nôtre et qui nous montre bien que nous sommes une créature et que nous retournons à notre Créateur. Pas de doute, hein. Et c'est Paul. Moi, c'est un des plus beaux textes, j'admire, hein. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Alors, le verset 40, vous allez le dire, on va le lire ensemble et je vais faire un bref commentaire à chaque fois. Il est dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Vous avez vu le mot éclat ? Il y a le terne et le superlumineux. Ouais, il y a le terne. L'existence des hommes, c'est une existence de passage, mais si quelqu'un prétend être la lumière, là, il n'a pas de bons yeux. Le mot éclat. Et qu'est-ce que nous dit Paul ? Il nous dit qu'il y a la nature du vivant, c'est-à-dire le temporel, le corps, le physique, soma, si vous voulez, et qui est très diversifié. Et puis, il y a tout simplement le céleste. Alors, céleste, corps, terrestre. Donc le mot éclat revient 5 ou 6 fois, naturellement. Et l'apôtre Paul est en train de faire une petite introduction sur les 2 dimensions. La nature du vivant, diversifiée, et la nature du céleste qui est des millions de fois diversité avec le firmament, avec les étoiles, avec les galaxies et tout ça. Ça nous dépasse tout ça. Hein. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous laisse un petit peu dubitatif. Le verset 42 nous dit ceci. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts ?» Ça commence par le mot « résurrection ». C'est-à-dire qu'il y a une perte d'un côté et il y a une vie qui va découler de cette disparition, de cette mort. Vous connaissez la parabole où il nous est parlé à un moment donné qu'il faut que le grain de blé meure. Et s'il ne meurt, s'il reste dans son état, eh bien, il ne produira pas de fruits. Et moi, je crois que quelque part, notre espérance à chacun, c'est que nous savons que nous allons mourir, ça c'est vrai, de quelque manière que ce soit. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous les chrétiens, nous avons une espérance dans notre cœur, nous avons une certitude. Mais nous avons la certitude non pas seulement fixée et omnubilée par la disparition et la mort, mais nous avons quelque chose de beaucoup plus fort, c'est que nous ressusciterons et nous ressuscitons et nous sommes déjà ressuscités par la nouvelle naissance avec Jésus qui est vivant pour l'éternité. Le corps est semé corruptible quand nous sommes au pied d'une tombe, avec le chagrin que cela implique naturellement. Hein. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Je vous dirai quelques mots sur cette théologie. Il ressuscite incorruptible. Fini les maux de dents et l'arthrose. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Paul parlera de son corps d'humiliation et il aspire finalement à vivre quelque chose d'autre. Il a foi en Christ. Et si nous sommes dans ces conditions, eh bien, de vivre dans cette force nouvelle, c'est parce que Jésus est mort à notre place. Il n'est pas mort pour ses péchés, Jésus. Il est mort pour les miens, les vôtres, pour chacun, pour le monde entier. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Il est aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, notre père à tous, qui s'appelle Adam. Il aurait pu l'appeler Alain. Ça aurait été. Mais Adam, ça veut dire Adama. Dans sa traduction, Adama, c'est-à-dire c'est terre, poussière. Voilà. Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, parce que le texte nous dit que Dieu souffla dans ses narines, et la vie, la deuxième vie, c'est-à-dire celle de l'âme. Parce que autrement, ça aurait été une statue, Adam, hein, s'il n'y avait pas ce souffle de vie, pour lui donner une âme. Je ne parle pas de l'esprit, hein, une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Et qui est ce deuxième Adam? Eh bien, c'est à la fois Jésus, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal, qui a vaincu le péché, alors que le premier Adam a succombé au péché, il en est mort. Et puis, c'est chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, qui avons fait une expérience avec le Seigneur. Chacun d'entre nous, nous sommes aussi, nous faisons partie de la race du nouvel Adam. Alors, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tels les uns les autres. On a parlé de la nature du vivant et la nature céleste. On a parlé de la résurrection du mortel à l'excellence de l'existence là-haut. Et puis, je viens de lire le texte, dans l'ordre des priorités essentielles, c'est ce que nous avons lu à travers le verset 45, que je relis tout simplement, c'est pourquoi il est écrit le premier Adam, le deuxième Adam, et on voit comment les choses se sont déroulées dans l'ordre de restauration, dans l'ordre de remise à niveau, de remise tout simplement et bien à jour en quelque sorte. Et ça c'est tout le plan de salut de Dieu, quoi qu'il en soit. Un peu plus loin, tel est le terrestre, tel aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Le verset suivant nous parle de l'image. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, les uns et les autres, avec tout ce que comporte notre vie, nos vêtements, nos goûts, nos activités, nos amours, nos passions, voilà, ça c'est fait partie finalement de l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, l'image, ce n'est selon la Bible que l'ombre des choses à venir, ok? Excusez-moi, hein. Mais ce n'est que l'ombre des choses à venir. Nous, pour nous, nous vivons dans notre environnement, nous vivons sur notre territoire humain, charnel. Mais bientôt, tout ça, il va falloir le quitter, et vous verrez, il n'y aura pas de regret. Hein. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit le sang et le feu, depuis des siècles et des siècles, depuis l'histoire sordide de Caïn qui tue son frère, eh ben on est toujours au même point. Et on pourrait se dire aujourd'hui, avec la technologie, la connaissance, avec tous les développements qu'il peut y avoir pour que l'homme soit heureux sur la Terre, on s'aperçoit qu'il y a une... quand on voit ce qui se passe. Moi, je suis effrayé de voir les images que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été. On se dit que le XXe siècle était un siècle épouvantable. Mais attendez, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Le remake de tout ce qui s'est passé avant. Je continue. Ce que je dis, frère, c'est pour les chrétiens, hein, naturellement, hein, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Eh oui, quand il est dit que le péché, c'est ce qui nous prive, finalement, de la présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu, c'est l'absence du Créateur chez la créature. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On ne va pas se refaire une santé, hein. On ne va pas se refaire, c'est pas nous qui l'allons faire, c'est Jésus-Christ qui l'a fait pour nous à travers l'œuvre de régénération et de sanctification. Mais il faut passer d'abord par la conversion, passer par la repentance et passer par une nouvelle naissance. C'est le mal et ses conséquences qui nous sont données à travers le verset 50. C'est une question morale et éthique. Ça touche véritablement ces questions-là. Je continue. Voici je vous dis un mystère. Et ça, c'est intéressant parce que ça va arriver bientôt. Moi, je crois, hein, ça va arriver bientôt. Je regarde et je me dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Il revient bientôt. L'Église soupire. Oui, Seigneur Jésus, reviens bientôt. La nature soupire après l'avènement des fils de Dieu, c'est-à-dire des hommes convertis. Oui, quand on voit comment elle est détruite, comment elle est piétinée, je suis pas un écolo, hein, mais ça vient tout simplement, tout ça, ça marche ensemble, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ah tiens, c'est bien ça. Ouais, vous vous rendez compte? Certains, dans un temps particulier, on ne mourra pas, on sera enlevé. C'est la phase de la première, de l'enlèvement de l'Église. Lisez Thessaloniciens. Jésus nous en parle également dans ses paraboles, d'une manière ou d'une autre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comment? En un clin d'œil, dans un instant, à la dernière trompette. Et ça sera universel, ça sera mondial. Et on le verra apparaître dans les airs, mais seulement dans les airs, et il n'y a que nous qui le verrons. Et nous serons enlevés. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et il y aura deux choses qui vont se passer. Ça sera le tribunal de Christ, qui sera le premier tribunal, non pas pour nous juger, mais pour nous récompenser, et nous aurons des couronnes sur la tête. Vous vous rendez compte? Moi, je vais vendre mon chapeau. Hein. Ouais. C'est quelque chose de merveilleux. Et là, ça sera les hommes qui auront cru, Ancien Testament, Nouveau Testament, quels que soient les hommes qui auront cru en Dieu pour l'Ancien Testament, et qui auront aspiré à recevoir leur Messie quand il s'agit des Juifs, et pour nous, finalement, parce que nous avons accepté Jésus comme Rédempteur et Sauveur. Et on sera tous enlevés dans les cieux. Et ça sera fini pour nous, les misères de la terre, les chagrins de la terre. N'ayez pas peur, mes frères. Le meilleur nous appartient, il est devant nous. Et après viendra, justement, dans cette période, il viendra, eh bien, la grande tribulation. Mais elle n'est pas pour nous, elle sera pour les Juifs. Mais elle ne sera pas pour les chrétiens, elle ne sera pas pour l'Église. Nous serons mis en attente et nous serons dans le repos, dans la présence de Jésus. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quelle sera la situation, et ce sera le bonheur et la paix. Et là, nous commençons déjà à mettre un pied dans l'éternité, parce que les choses ne seront pas finies encore. Hein. Dans la grande tribulation, il faut attendre qu'il y ait Hermageddon. Là, il va y avoir du nettoyage, hein. Ça va être terrible, hein, mais ça ne sera pas pour nous. Et après viendra le millénium. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin, parce qu'on reste jusqu'à demain matin. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Nous allons ressusciter, débarrassés de toutes nos scories, charnelles et humaines. Et nous, nous serons changés. Nous, on fait des efforts, hein, mais c'est la sanctification. Parce que Jésus est notre sanctification, nous dit 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Et autant je veux vivre avec les fruits de l'Esprit, autant je peux me rapprocher de la ressemblance de Jésus, eh bien, à ce moment-là, les choses qui ont été préparées sur la terre vont véritablement, eh bien, porter leurs fruits de l'autre côté. Il y aura une transmutation. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité pour entrer dans la dimension définitive. L'avènement de la plénitude de la vie dans l'au-delà. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole, c'est le triomphe de la Bible. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Point d'interrogation. On ne la connaîtra plus. Ô mort, où est ton aiguillon? La victoire de la vie, la victoire du bien, la victoire du vrai, la victoire de l'amour sur la mort, ça sera le bonheur en perfection qui est résumé en ceci. Écoutez bien, parce que ça vaut pour nous, hein, les évangéliques, les chrétiens, hein, que nous sommes, où nous avons mis l'accent beaucoup plus sur une chose que sur une autre, c'est que la loi fait mourir et que la grâce fait vivre. Et l'évangile, c'est la grâce, par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mes frères et sœurs, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Vivons pleinement le don que Dieu nous a donné de vivre. Depuis notre position, lorsque nous étions un embryon, on était loin de savoir tout ça, hein. Ensuite, notre vie terrestre, et là nous allons rentrer dans une dimension extraordinaire, surnaturelle. Je ne peux pas m'imaginer ce que ça peut être. Mais finalement, ça doit nous faire tressaillir de joie. Et je termine. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est toute la Bible qui nous dit ça, hein. Depuis le jardin d'Éden, c'est ça, hein. La puissance du péché, c'est la loi. C'est pour ça que je vous ai dit que la loi, si nous vivons dans l'Ancien Testament et que dans l'Ancien Testament et que nous attendons encore le Rédempteur et le Messie, eh bien nous nous trompons. Mais bientôt, les yeux d'Israël vont s'ouvrir sur leur Messie qu'ils ont crucifié. La puissance du péché, c'est la loi. Et l'apothéose est celle-ci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il me semble que c'est un petit peu quand même un tantinet évangélique, ce que je vous ai dit ce matin, non? Évangélique, c'est la bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Je finis par en reprenant la première proposition qui nous a été faite. Quand il est dit cette parole, et je la relis parce que me semble-t-il que c'est une bonne conclusion, à mon sens. Qui n'a jamais entendu pareille chose? Dites donc, on a entendu des choses ce matin. Hein. Qui? Qui a jamais rien vu de semblable? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Le Seigneur a préparé le passage de l'embryon à la vie terrestre. Ensuite, à travers la rencontre de Jésus avec Nicodème, la nouvelle naissance, et quand Jésus va revenir, alors à ce moment-là, on va rentrer à la maison. La maison, elle est là-haut. Ce sont des palais d'ivoire que Dieu a préparés pour chacun d'entre nous. Il y a une traduction qui nous dit ceci. « A-t-on jamais vu chose pareille et entendu dire une chose pareille ?» Il est dit tout simplement, ou Dieu dira peut-être en parlant d'une femme qui va accoucher, « Si je conduis une femme au terme de sa grossesse, parce que c'est encore Dieu qui donne la vie, hein, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu pour faire vivre naturellement. Hein. » Vais-je empêcher de naître? Si c'est moi qui prépare une naissance, ce n'est pas pour la rendre impossible. Donc la conversion, la repentance, la nouvelle naissance, le salut en Jésus-Christ, la sanctification, la purification de nos péchés, le baptême du Saint-Esprit, si vous voulez, tout cela, Dieu ne le rendra pas impossible. Bannissons de notre pensée, de notre cœur et de notre bouche le mot impossible. Oui, une chose qui peut nous abasourdir, qui peut nous, finalement, nous étonner tellement. Mais Dieu est Dieu, tout simplement, et il nous a montré le chemin. Vous savez ce que l'on va faire maintenant? On va rendre grâce au Seigneur, on va bénir le Seigneur pour le bonheur de connaître ce que nous a révélé. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est la lumière, elle est le chemin, Seigneur, sur lequel tu nous as conduits. Mais qu'est-ce que nous pouvions faire? Qu'est-ce que nous pouvions mériter pour avoir une telle grâce? Eh bien, ce n'est pas par le mérite. C'est tout simplement par la grâce, au moyen de la foi, que tu nous as permis, Père éternel, de nous tourner vers toi et de crier pour que Jésus nous sauve, que nous croyons que Jésus nous a sauvés. Alors, nous te bénissons et nous te remercions. Visite mes frères. Envoie le souffle de l'Esprit, ce pneuma, c'est-à-dire ce vent, ce souffle, pour que nous puissions être de nouvelles créatures, mais réellement des nouvelles créatures, sans hésitation d'un côté ou un autre, ceci, cela, en balançant, en marchant, en clochant des deux pieds, mais véritablement de nous réjouir de ce que nous sommes, eh bien, en tant qu'hommes, eh bien là, véritablement des créatures singulières. Rien à voir avec les animaux, rien à voir avec les fleurs et puis tout ce que tu veux. Mais Seigneur, tu nous as donné, Père éternel, aussi d'être tes témoins. Témoins de Jésus-Christ qui apporte la vie. Mais il faut que nous, dans notre cœur, notre propre cœur, nous ayons des certitudes et des assurances. Alors donne-nous ton secours et ton aide. Et bénis ta parole, bénis nos vies. Et qu'ainsi nous puissions regarder non pas vers la terre, mais regarder vers le ciel. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Et nous allons passer maintenant au repas de Sainte-Cène, qui est le symbole, quelque part, eh bien, de ce que Jésus a payé pour nous, à travers sa mort à la croix, son sacrifice.